Au cœur de l'histoire, tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada et sur le site www.radioarmada.fr.
Bonsoir à tous, toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Très heureux de vous retrouver ce soir encore au compte de cette émission au cœur de l'histoire qui vous parvient tous les mercredis de 16h30 à 18h. C'est un rendez-vous d'échange, de débat, de rencontre, comme vous le savez, tous les mercredis. Et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes mercredi 25 novembre. 25 novembre, vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ou de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Vous le savez, à cette date, le 25 novembre 1960, trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabel, furent assassinées sur les ordres du chef de l'État dominicain. Le 19 octobre 1999, lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les représentants de la République dominicaine et 74 États membres ont présenté un projet de résolution visant à faire du 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales étaient invités ce jour-là à mener des opérations de sensibilisation de l'opinion à ce grave phénomène. Aujourd'hui, ce phénomène est toujours récurrent dans le monde. Ce soir, on va non seulement parler de ces violences, mais aussi on mettra un accent sur les Comores. Les Comores, qui est une république fédérale d'Afrique australe située dans le nord du canal du Mozambique, un espace maritime de l'océan Indien. Le pays a pour capitale Moroni, avec une superficie totale de 2612 km². Dans ce pays, le viol des femmes, surtout des mineurs, sont devenues monnaie courante, une pratique qui inquiète la société civile, les associations de défense des droits des femmes comoriennes, mais aussi le collectif des femmes engagées comoriennes de France qui sont avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Zaza.
Bonsoir.
Approchez-vous du micro un tout petit
Bonsoir,
peu.
Bonsoir Alassane.
Comment ça va?
Ça va, merci.
Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans cette émission et de parler de ce thème qui fait vraiment actualité en cette journée particulière qui est la journée du 25 novembre 2020.
Tout à fait. C'est voilà. Une journée spéciale, mais il y a 365 jours, on doit... C'est pas seulement la journée d'aujourd'hui,
d'accord,
mais tous les jours,
voilà,
on doit lutter contre,
d'accord,
ces viols.
D'accord. Et de l'autre côté, je suis toujours avec le collectif des femmes engagées comoriennes. Vous êtes à Agira. Agira, vous faites partie de ce collectif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur Radio Armada.
Merci.
C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Et puis voilà, on ne va pas que parler ce soir de la journée, au-delà de ça, même si son mouvement s'active ou lutte aussi pour cette cause, mais on fera un tour aussi du côté de la Côte d'Ivoire avec nous dans ce studio, la présidente du mouvement citoyen Côte d'Ivoire Debout, qui n'est pas à sa première participation à cette émission. Nadine, comment ça va?
Bonsoir Alassane.
Vous allez bien?
Bonsoir à tous.
Vous n'êtes pas perdu ou vous êtes perdu? Eh, ça fait deux fois, il va avoir le carton rouge pour toi. Hein. Eh bien voilà, comme on est on parle de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes, une artiste a décidé de faire une chanson. Étant maman, elle a son mot à dire sur ce fléau, sur ce problème qui est aujourd'hui, disons, comme monnaie courante aux Comores. Elle est comorienne. Bonsoir Maoulida.
Bonsoir.
Maoudoc.
Voilà,
je sais que il y a quelqu'un qui me regarde de l'autre côté, mais voilà, je m'en fous. Voilà, toi, je m'en fous de toi.
Majesté.
Docteur de l'autre côté, comment ça va?
Très bien, ça se passe.
Approchez-vous du micro.
Merci.
Et baissez un peu à votre niveau. Et puis, voilà. Alors, il n'y aura pas que les invités qui sont sur plateau. Ailleurs, au bout du fil, un peu partout, nous sommes suivis. Mais aussi, nous avons un juriste, un avocat qui milite, qui défend la cause féminine. Il est avec nous. Lui, c'est Moujahid. Désolé, mon frère, si je massacre ton nom. Désolé. Comment ça va, mon cher?
Bonsoir tout le monde. Je vais très bien. Ouais, je suis là. Avec vous.
Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes en ce moment?
Là, je me trouve en France actuellement, en banlieue parisienne. En fait, j'exerce à Moroni.
D'accord.
Mais là, je suis de passage à Paris pour des raisons familiales et personnelles.
D'accord. Alors, pour ce qui est de présentation sur votre parcours, votre combat, je vous laisserai le soin de le faire. Et puis, je vais continuer. De l'autre côté, toujours au bout du fil, ils sont deux. Il y a Madame Marie également, qui fait partie aussi de ce collectif qui est avec nous. Bonsoir, Madame.
Oui, bonsoir. Je suis à Marseille actuellement.
D'accord.
Donc, je fais partie de l'association Tomeya et qui fait partie aussi d'une caravane qui a commencé le 24 octobre, justement, qu'on a su justement mettre en place ce qu'on appelle la caravane.
Ben, d'accord.
On vous expliquera tout à l'heure ce qu'il représente, la caravane.
Alors, on ne saurait démarrer cette émission sans faire un clin d'œil à notre partenaire, le partenaire média de cette émission, qui va d'ailleurs même être partenaire de cette radio, le média citoyen 224, le média qui se distingue, à gérer par notre ami Emma Souma. Pensez à vous, je sais que vous êtes connecté, et à tous les abonnés de cette page. Vous nous suivez un peu partout ce soir dans le monde, on le sait, la radio Armada, c'est une radio qui et ses abonnés un peu partout dans le monde. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes ou de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Chères dames, c'est votre journée. Tout d'abord, je commence par vous, Zaza. Quel est votre sentiment cette journée et tout ce que s'est passé et ce qui se passe d'ailleurs?
Cette journée, c'est une journée spéciale.
D'accord.
Mais je trouve aussi une journée d'engagement de tout le monde entier. Parce que ce qui se passe, ça se passe dans tous les pays.
D'accord.
C'est le fléau.
D'accord.
Et cette journée, c'est quelque chose qu'on doit, que les hommes, les femmes, on doit lutter, on doit se mobiliser et informer pour lutter contre cette violence faite aux femmes et aux hommes et aux enfants.
D'accord.
Et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir vraiment invités pour cette journée.
Comme on le dit chez nous, Radio Armada, la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Vous avez quand même la parole, je sais, vous êtes une femme engagée. Et puis de l'autre côté, Nadine, vous êtes présidente d'un parti politique, mais vous êtes une femme, une combattante, une battante, et la cause féminine vous intéresse et intéresse votre parti également.
Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment heureuse d'être ici ce jour, c'est un jour spécial. Effectivement, c'est un jour qui est dédié donc à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'aimerais en fin de compte que ce jour dure toute l'année.
D'accord.
Parce que c'est un fléau vraiment récurrent. Et dans tout le continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est étrange, c'est un syndrome commun.
Oui.
Parce que les violences faites aux femmes, ça n'a pas de connotation sociale. On peut être quelqu'un même de très bien placé dans la société.
Oui.
On peut être quelqu'un de moins nanti. Mais étrangement, c'est quelque chose qui subsiste malgré la situation géopolitique ou géolocalisée où on est.
D'accord.
Et vraiment, je me demande pourquoi ce fléau persiste. Et quelle que soit l'origine, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Donc, on aimerait lancer aujourd'hui un SOS vraiment à tous les hommes, afin que, comme là justement en France, actuellement on a suivi le procès Laval, mmh. qui a tué sa femme, donc c'était vraiment quelque chose de très, très...
Très horrible. Hein,
très horrible. Oui. Et donc c'est pour dire que le féminicide, ça existe mmh. depuis toujours, et puis on aimerait vraiment que cela cesse. Mmh. Et donc la voix de des associations comme ces dames, c'est très important, il faudrait que ça se propage.
D'accord. Voilà. Ben voilà, je continue à donner la parole aux femmes, à Gira. À Gira, oui. C'est ça. Oui. Votre sentiment en cette journée, avant de commencer à aborder les questions sur les Comores.
Pour moi, c'est une journée de deuil.
Approchez-vous un peu du micro, ou vous l'approchez un peu.
C'est une journée de deuil pour nous les femmes et les enfants mineurs. Donc, je lance un cri à toutes les femmes du monde, en particulier les femmes africaines et comoriennes.
D'accord.
Pour qu'on se soulève et qu'on se mette tous ensemble pour défendre cette cause, cette bonne cause qui est la nôtre.
Maudoc, vous êtes artiste, vous servez de votre plume, votre stylo pour écrire et pour dénoncer dans une chanson, d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'écouter ici ce soir.
Oui.
Étant maman, qu'est-ce que ça vous fait avec tout ce qu'on sait comme violence à l'égard de la couche féminine?
Oh là, ça fait chaud au cœur parce que tant que maman, qu'on donne la vie, qu'on indique, qu'on donne l'éducation.
Oui. En fait, sans vous, il n'y a pas de
voilà.
vie.
Sans nous, voilà.
On peut le dire comme
au
ça.
Au moins, on a une clé qu'on a.
Fièrement. Bah, après, c'est la logique. Voilà. Marie, est-ce que c'est votre point de vue?
Oui, c'est mon point de vue, mais je peux rajouter aussi que la violence faite aux femmes, c'est... Elle est très diverse. Mmh. Ça peut être des violences domestiques, oui. bien sûr, des harcèlements ou agressions sexuelles, ou bien ce qu'on appelle aussi chez les jeunes, les mariages précoces et forcés.
Oui.
Et on a notamment certaines régions d'Afrique, on parle aussi de la mutilation génitale féminine, et sans oublier non plus les trafics d'êtres humains, hein, l'esclavage moderne, l'exploitation sexuelle. Et aussi, n'oublions pas aussi ce qui découle des réseaux sociaux.
D'accord.
Voilà, donc chaque année, c'est vrai qu'on met un jour pour marquer comme quoi la femme, c'est un être vivant, consciente et qui existe.
D'accord.
Donc voilà.
Alors, nous avons un juriste parmi nous. Lui, il se sert des textes, de lois. Il connaît la chose puisque c'est un défenseur de la cause féminine. Vous êtes avec nous, Mojahidi.
Oui, je suis avec vous, tout à fait. Moi, je partage ce qui a été dit sur ce plateau par les femmes, enfin les femmes qui sont présentes, qui sont là avec nous. Mm. Et surtout la dernière intervention faite par Madame Marie, même si elle n'est pas sur le plateau, mais en tout cas elle est là parmi nous là. Donc
bien sûr.
Je pense que c'est une belle opportunité cette date pour justement rappeler que la femme elle est encore victime de pas mal de violences qui prennent différentes formes. Mmh. Elle peut être psychologique comme elle peut être physique. Et aujourd'hui, c'est une occasion offerte aux ONG, aux associations, aux militants, aux défenseurs des droits de l'homme, pouvoir effectivement vulgariser, c'est une belle occasion pour vulgariser un texte connu qui a été adopté au niveau des Nations Unies, la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui en fait c'est un texte intéressant parce qu'on sait très bien que toutes ces violences elles sont dues au fait que il y a encore des discriminations, l'égalité n'est pas garantie entre les sexes.
D'accord.
Et on sait très bien que jusque-là nous vivons dans une société très patriarcale, et ça ce n'est pas le commun seulement des pays africains, mais je pense que c'est quelque chose qui se trouve un peu partout dans le monde, même ici en France. J'ai entendu une sœur sur ce plateau dire que effectivement citer le cas de Daval, qui est un cas français, pour vous dire que le problème, le fléau, il n'est pas qu'africain, mais c'est un fléau qui est mondial.
C'est un phénomène mondial.
Et qui concerne plus précisément les filles les mineurs, les filles de moins de 18 ans.
D'accord.
Et je pense que c'est ce qui va le plus nous préoccuper aujourd'hui par rapport aux Comores.
Voilà. Alors, comme on parle de Comores aujourd'hui, avant de parler des cas de viol aux Comores, vous êtes constitué en un collectif, le collectif des femmes engagées comoriennes de France. Parlez-nous de la naissance de ce collectif. Comment il a vu le jour?
Alors, moi, je suis membre fondateur. D'accord. Mais la naissance, c'est Madame Adjira qui nous avait réunis.
D'accord.
À Paris 12e. Mmh. Je vais la laisser présenter le collectif.
Allez-y, Adjira. Ouais.
D'accord. Moi, je suis une militante depuis 2001 à peu près.
D'accord.
Donc, j'ai participé à pas mal d'événements africains. Donc comorienne. Donc j'ai constaté que la femme africaine, plus particulièrement comorienne, a des compétences. Mais on s'est perdu un peu, on ne se connaissait pas. Donc je me suis donné l'objectif de les réunir. Donc j'ai organisé un séminaire le 2 novembre 2018 où j'ai invité une trentaine de femmes de toute la France sur Grigny Centre. Donc c'est là où est né le collectif. Donc je les ai présentées. J'avais mon objectif, c'est de les réunir, qu'on soit solidaires. Et qu'on se connaisse tous, parce qu'il y a des compétences, mais c'était un peu perdu.
D'accord.
Donc, il y a une des femmes qui s'appelle Koulou Haïdar. Elle a, dans son élocution, elle a proposé qu'on mette la violence sexuelle au cours de notre débat.
D'accord.
Donc, on s'est engagé. On était 30, il y a une vingtaine qui s'est engagée. Donc, on est parti avec, premier objectif, la violence contre les femmes et les enfants.
Voilà. Alors là, depuis, le combat continue, ça fait partir de vos valeurs, c'est ça?
Oui.
D'accord. Et aujourd'hui, votre engagement, votre cri de cœur, c'est ce problème de viol aux Comores qui s'empire, qui commence à prendre de l'ampleur. C'est devenu votre préoccupation aussi en tant que femme engagée?
Oui, c'est pas uniquement aux Comores. Hein.
Oui, c'est pas uniquement aux Comores, mais aujourd'hui.
C'est aussi en France. C'est les Comoriens.
C'est partout dans le monde.
D'ailleurs,
c'est partout dans le monde. Oui. Mais en gros, puisque moi, vous le savez, nous voyons les infos, nous avons vu des vidéos avec des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je ne vais pas, on ne va pas au-delà, on ne va pas montrer ces images-là ici, puisque c'est vraiment horrible, ce n'est pas humain, si on peut le dire comme ça. Donc, ça vous a choqué, vous, votre collectif, et vous vous êtes dit, non, il faut qu'on fasse la sonnette d'alarme, il faut que vous vous réveillez.
Il faut qu'on se réveille, mais on s'est donné l'objectif de commencer par nos foyers.
D'accord.
D'abord. Donc, pour pouvoir aller dans tout le terrain, on a dit, on commence par nos foyers, par nos enfants. De parler du sexe au niveau de nos enfants, pour que le sexe ne soit pas tabou.
D'accord.
Donc, on a commencé à sensibiliser, à mobiliser au niveau de la famille. Après, on a commencé à dénoncer, surtout nous, le collectif. En 2019, il y a eu une femme enceinte qui a été éventrée par son propre mari. Donc là, on s'est dit, non, c'est pas possible. Il faut que l'interdit devienne normal.
D'accord.
Donc, c'était ça notre objectif.
D'accord.
Le cas en bois devienne à résumer, ça veut dire. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est donné, mais je pense que je laisse la main à Zainaba pour qu'elle rajoute
un peu plus. Zainab, comme tout le monde t'appelle d'ailleurs, Zaza, c'est le nom le plus connu. Aux Comores, il faut un engagement, il faut être sur le terrain. Bah après, vous êtes là, comment vous jasissez sur le terrain aux Comores? Est-ce que vous êtes représenté là-bas? Comment ça se fait, cette lutte?
Ah cette lutte, on a des contacts avec des ONG, des associations qui sont vraiment sur le terrain. Et au fur et à mesure qu'on communique, là, c'est là d'où il est né la caravane, pour comment on peut les aider, comment on peut les soutenir. Et d'où il est né aussi le mouvement de lutte contre les violences sexuelles qu'on a, il n'y a pas longtemps, là, le 21 novembre. Et il est né. Et là, ça réunit toutes les associations d'ici
D'accord.
et de là-bas pour qu'on a un but commun. pour qu'on y a une gouvernance de vie associative pour lutter. Et parce que c'est la société civile qui peut vraiment porter ce combat.
D'accord.
Parce que si on attend le gouvernement ou l'État pour agir, et c'est comme ça que là-bas, ils voyagent de ville en ville pour sensibiliser de village en village. Et en même temps, ils n'ont pas les moyens.
D'accord.
Et c'est là d'où nous, on travaille ici avec les associations pour apporter aussi notre soutien et notre aide. Et là, on est tous en construction. D'où la caravane, ça sera l'objet de... c'est un dispositif d'appui des autres associations. Parce qu'on a une cellule d'écoute aux Comores qui nous permet de nous donner les chiffres. C'est eux qui nous donnent les chiffres. Parce que dès qu'il y a une alerte, la cellule d'écoute accueille la famille, les associations se réveillent pour vraiment les accompagner, que ce soit côté médical, judiciaire, mais la protection aussi, la santé. Mais on n'a pas tous ces moyens-là.
D'accord.
C'est ça, parce que les enfants, il n'y a pas un accompagnement psychologique. Il y a, après avoir dénoncé, après avoir aidé, il n'y a pas de suite. Ces enfants, après, ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas un accompagnement.
D'accord.
Voilà. Et c'est ça qui arrive, parce que ça se répète. Cet enfant, il va devenir adulte, il va avoir un enfant. Et en fait, l'histoire se répète parce qu'il ne s'est pas soigné en elle-même.
D'accord.
C'est comme si demain, j'ai vécu cet acte et que je n'en parle pas. Et je ne me suis pas soignée, ben, forcément...
En même temps qu'on n'a rien fait pour...
Ouais. Voilà,
ça, voilà, ça revient.
D'accord. Alors, Moujahidi, vous êtes juriste. Vous, j'ose croire que vous accompagnez ce collectif dans leurs différents événements ou combats. Qu'est-ce que, en tant que juriste, qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Je ne dirais pas le pays, mais le collectif, sur le plan juridique, qu'est-ce que vous leur apportez?
Moi, comme je suis pas localisé ici en France, mais plutôt aux Comores,
oui.
J'accompagne les différentes associations comoriennes sur le terrain.
D'accord.
Et qui sont dans ce combat contre la violence faite aux femmes, mais surtout faite aux enfants. Il y a plusieurs associations actuellement sur l'archipel de Comores qui travaille dans cette problématique-là, comme Manatio Amdima, comme Hifadu, comme les Petits Anges et d'autres. Et en général, on travaille sur... on se concerte souvent autour de la cellule d'écoute parce qu'on a mis en place une cellule d'écoute, parce que l'archipel de Comores est composé de 4 îles. Actuellement, il n'y a que 3 îles et qui sont indépendantes, genre qui aujourd'hui forment l'Union des Comores, mais la quatrième île, elle est encore sous condition française.
D'accord.
Donc du coup, chaque île, on a mis en place une cellule d'écoute qui essaie de jouer de rôle important d'accompagnement par rapport aux victimes, enfin d'accompagnement des victimes, bien sûr. Il y a d'abord une première mission qui consiste à assister les victimes sur le plan médical, c'était également sur le plan psychologique et c'était également sur le plan juridique.
D'accord.
Donc moi j'interviens là-dessus en tant qu'avocat pour accompagner. Mais la cellule d'écoute, elle travaille pas toute seule, mais elle travaille avec toutes les associations. Donc moi je me retrouve un peu impliqué dans cette galaxie qui tourne autour de la cellule d'écoute, et de la cellule, mais également de l'ensemble de ces associations.
D'accord.
Et quand je viens en France, je suis en contact avec certains membres très actifs d'ailleurs de la diaspora et qui travaillent dans les associations comme Femmes Engagées et d'autres. Mmh. On peut citer ici, par exemple, il y a Marie, il y a aussi Zainaba, mais il y a aussi Madame Fatouma. Et quand je suis là, c'est toujours une occasion pour qu'on puisse se voir et mettre en place des actions.
D'accord.
Donc, il se trouve que quand je suis arrivé en France, il y avait la caravane qui allait commencer. Donc, d'ailleurs, avant même que j'ai pris l'avion pour venir, on m'avait concerté pour que je puisse être présent. Donc, depuis mon arrivée, je suis là, je suis avec eux, je les accompagne parce que c'est le même combat. Nous menons tous le même combat. Nous sommes tous des nationaux comoriens et donc on essaie de faire avancer notre pays en aidant effectivement nos enfants à sortir de ce problème.
D'accord.
Voilà. Nous l'espérons.
Alors, ça va aller, c'est une lutte voilà, qui va perdurer, et pourquoi pas, ça sera résolu. Voilà. Alors, Nadine Nguessan, vous êtes politicienne, vous avez un mouvement qui s'appelle Mouvement Citoyen Côte d'Ivoire Debout. Vous n'êtes pas qu'intéressée par la politique, la cause féminine est aussi votre préoccupation.
Au cœur du combat.
Au cœur du combat, bien sûr, en Côte d'Ivoire, c'est un phénomène, le viol, les violences, c'est un phénomène planétaire.
Tout à fait.
Vous, c'est une de vos préoccupations
tout
aussi.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire aussi, on a les mêmes thématiques, les mêmes fléaux. Mmh. Il y a quelques années de cela, on a eu justement le meurtre d'un enfant qui s'appelle Bouba.
Oui.
Et qui a fait vraiment un raz-de-marée.
Oui.
Alors les Ivoiriens sont sortis.
Oui, je connais un peu l'histoire.
Voilà, l'histoire de Bouba. Mmh. Et c'est comme si l'âme de cet enfant avait vraiment réveillé tout
la
le monde.
D'accord.
Et tous les Ivoiriens ont pris la rue. Et on a vraiment dénoncé ça. Parce qu'à un moment, il y avait beaucoup de meurtres contre les enfants. On retrouvait les enfants disparaissaient, on ne comprenait pas. Et puis surtout, nous, on a fait quand même l'analyse que c'est proche des élections. Il y avait tout le temps des enfants qui disparaissaient, on ne comprenait pas. Donc on a commencé à dénoncer cela. Et ensuite, au niveau de l'exécutif, parce qu'il faut le dénoncer, au niveau associatif, c'est le rôle. Ensuite, un travail d'éducation, de sensibilisation, vraiment dans les villages retranchés, parce qu'avec les coutumes aussi africaines, on se dit toujours que l'homme, on doit être soumise, la femme doit être soumise à l'homme. Donc si de temps en temps tu te prends une gifle, t'as mérité. Mais bon, des fois, t'as pas mérité parce qu'après, ça va crescendo. Et quand t'es marié, en fin de compte, t'es dans une bulle où tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dénoncer? Tu peux retourner chez tes parents, tu subis. Mais après, un jour, il y a un désastre. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des lois. Parce qu'après, il y a le côté législatif. Il faut aussi que vos députés, sénateurs, au niveau du Comore aussi, adhèrent à la cause. Mmh. Voilà, qu'il y ait des projets pour défendre les femmes, les enfants. Et donc, de cela, ensuite, aussi l'exécutif comorien qui doit faire des lois. Mmh. Des lois contre... Il faut sanctionner ces meurtriers. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ça va perdurer. Alors, il faut lier la sensibilisation et puis après l'acte, la peine. Une peine pour ce genre de personnes.
L'application des textes de loi.
Voilà, il faut des lois contre ce genre d'action. Sinon, ça va être compliqué, vous allez faire des caravanes et tout ça. Mais il faut que les gens sachent que quand on pose un tel acte, qu'on note la vie, et il y a une conséquence.
D'accord.
Voilà.
Et alors je le disais, au-delà, je sais que c'est partout, que ce soit au Comore, que ce soit partout d'ailleurs.
Même récemment, j'en ai parlé aussi avec une amie qui vient du Tchad, qui m'a parlé aussi de ce genre de fléau auprès des femmes qui sont vraiment...
Alors, vu que c'est un phénomène qui se pratique ou qui est un peu partout, dans tous les domaines, en politique aussi, avec les politiciens, surtout les femmes politiciennes, de l'opposition, de pouvoir de la mouvance, est-ce que les femmes subissent aussi des violences à ce niveau, puisqu'il y a au-delà des violences conjugales, au-delà des violences, des viols, est-ce qu'en politique aussi, ça existe?
Effectivement, en politique aussi, il y a l'harcèlement. Mm. Moi, je suis bien placée pour en parler.
Oui.
C'est quelque chose que j'ai subi. Mm. Et donc, quand on est une femme en politique, l'homme en face se dit que, t'es une femme, mais t'es toujours rétrogradée au rôle de la femme vraiment initiale. Mm. La femme, comme Adam et Ève, donc, même si tu fais de la politique, même si tu as fait des études, tu ne restes qu'une femme. Donc, on essaie toujours de te rabaisser et de te diminuer de façon à ce que, tu renonces à tout ce que tu aurais pu avoir comme engagement de manière socialement et puis politique. Donc, effectivement, ce fléau existe aussi parce que les femmes sont vraiment marginalisées dans le domaine politique aussi. On est vraiment marginalisées et c'est aussi une lutte Parce que ce sont, je pense que c'est les femmes aussi qui pourront écrire des lois pour les femmes, pour les enfants.
Merci.
Donc il faut c'est que nous les fait. Femmes aussi Merci. On s'implique dans la vie politique. Si on laisse la vie politique aux hommes, eh ben on va subir toujours ce genre de fléau.
D'accord. Voilà. Alors, Marie, vous êtes au bout du fil. Vous avez écouté vos consoeurs qui tous argumenté sur le thème du jour, ce fléau. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est votre regard sur tout ce qui vient d'être énuméré ici?
Non, c'est des causes qu'on partage tous. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on dit le 21e, on est dans l'ère du 21e siècle,
oui.
L'ère moderne, mais en vérité, quand on regarde bien, la femme est toujours, considérée moins que rien. Donc, c'est une chose qu'on déplore, et surtout qu'on sait très bien que la femme est capable en tout des études, dans tous les domaines. Donc, c'est ça que je relève à l'heure actuelle. Plus on avance dans le temps, plus on est obligé, nous, en tant que femmes, de se battre, de se montrer, et de se quitte à en perdre la vie. Donc, c'est vrai que même, c'est déplorable. C'est vrai que c'est déplorable.
D'accord.
Voilà.
Alors, docteur, depuis, vous n'avez rien dit.
Non,
mais vous observez, vous analysez. Je sais que vous avez des choses à dire. Vous êtes un homme, je comprends, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas du tout pour la violence ou les violences de quelque forme que ce soit envers les femmes.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris part aujourd'hui parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir ce mouvement. C'est un mouvement qui ne concerne pas qu'aux femmes. Parce que je sais que pour se combattre, ce n'est pas parce qu'il faut laisser celui qui sont faibles pour arriver au but de ses actions.
D'accord.
Par contre, je pense que autant parce que en Afrique, il y a beaucoup de systèmes que nous, on est assis. Je ne parle pas des tribus, mais on a la notabilité, qu'on appelle la notabilité. Ces notabilités, je pense ils sont bien placés. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Alors celui qui dit que voilà, non. On n'est pas mauvais. Là, je suis là pour les gens qui disent qu'ils ne sont pas mauvais. C'est pour ça que je suis là.
D'accord.
Parce qu'une femme, je pense que il peut tout dire. Si l'homme, celui qui trouve que c'est pas normal, c'est que les enfants y subissent, c'est que les femmes y subissent, autant comme, mais je sais, je. Même s'ils nous ont dit qu'on est né d'abord et que la femme elle est venue, mais qu'une fois la femme est venue, c'est toujours la femme qui fait l'homme.
D'accord.
Et c'est pour cela que j'ai pris part pour faire appel à toutes les notabilités comoriennes.
Bah, avant de faire l'appel, je pense que c'est très important puisque on reviendra sur ça. Tout ça va fait. Être vers la fin, puisqu'après tout ce qu'on va énumérer ici aujourd'hui, on finira par faire un appel au niveau. On sait que les sages, les notabilités en Afrique ont un rôle très important dans la société. Donc on les tout interpellera pour leur implication dans cette lutte, dans ce combat qui est aujourd'hui le combat de tout du monde, de nous tous. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Du côté, on va toujours rester du côté de Comores, ok. J'ai fait un peu de tour sur le site comorien pour vraiment voir comment ce fléau est vu par les Comoriens. Au-delà de la politique, avant de parler de la question que j'ai vraiment envie de poser, j'aimerais savoir la recrudescence de ce problème. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que le phénomène devient monnaie récurrent, en gros, récurrent au Comores? Qu'est-ce qui explique cela, Adjira?
Primo, je pense, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'avant, on était dans dans nos villages, on n'avait même pas la télé, ni téléphone, rien, même pas l'électricité. Et depuis qu'il y a les réseaux sociaux, Donc, ça nous a permis déjà.
Est-ce que ça a ouvert la... En fait, est-ce les filles ou les femmes qui sont... Ouais. Qui occasionnent ou c'est les hommes? Parce que le réseau, c'est pas seulement que les filles ou les qui sont connectées, les deux.
On est tous enfants et adultes.
Du coup, ce qu'on voit, vous voulez dire, qu'on voit sur les réseaux sociaux...
Ce qu'on voit à la télé, on croit que c'est de la réalité. Ah, donc, on imite, surtout les enfants. Ah, donc, c'est parti de là.
Il y a des associations des femmes aux Comores, des associations de défense des droits des femmes aux Comores. Il y a la société civile. Quel est leur rôle dans tout cela?
Je sais qu'à mon époque, la tradition, les notables avaient un gros, gros poids. Mm. Ouais, mais maintenant, je pense qu'ils sont en train de perdre leur poids. Donc, les deux cas, et la justice et la tradition, il n'y a rien.
D'accord.
Rien ne se passe.
Zaza?
Moi, je pense que dans le pays, il y a la société civile, parce que quand même, il ne faut pas oublier, il y a un réseau quand même national de femmes de développement. Mmh. Il y a le forum éducateur aussi comorienne. Mmh. Il y a les sessions comoriennes de bien-être, de famille. En fait, il y a l'association Maécha aussi. Il y a pas mal de sociétés civiles qui prend en charge. Mais la récurrence...
La recrudescence
de ces actes, en fait, c'est... On oublie l'histoire. Parce que notre histoire, c'est quand même matriarcale. Mmh. C'est la mère et la fille. Mmh. Voilà, l'éducation. Nous, la fille, il peut s'arrêter. Le garçon peut continuer l'éducation jusqu'au bac, jusqu'à l'ESIT. La fille, en fait, bon, ça y est, c'est fini. Tu t'arrêtes là, à la maison. On l'éduque, entretenir la maison. On le prépare pour quelque chose qu'on appelle le grand mariage. D'où ce monsieur qui dit les notables. Mmh. Et c'est là, en fait, c'est les mariages à arranger. Précoce aussi.
Oui, tout à fait.
Et ça, pour moi, les mariages à arranger, c'est le début de non-consentement. C'est la domination de l'homme encore qui arrive. C'est le viol. Pour moi, c'est... Mais ce mot-là n'existait pas.
C'est récurrent, voilà. Maintenant.
Et maintenant, voilà. C'est récurrent. Et je ne dis pas le réseau social, mais il y avait le non-dit. Parce que dans le village, on sait, nos parents, nos grands-parents, ils disent « Ah, on l'a coupé la tête. » Mais il fallait trouver c'est quoi couper la tête. Voilà. Parce qu'on prépare la fille pour être vierge, pour le grand mariage. Et si un jeune homme, parce que c'est toujours dans la famille, le cousin, le viol, l'inceste, c'est toujours ça a commencé l'inceste. Ça arrive, la mère ou la grand-mère dit « Ne dis rien. » Parce que pourquoi? C'est pas pour ne pas dénoncer, parce que tu trouveras pas un mari. Il faut que tu restes vierge. On va fermer la bouche pour... On dit que t'es vierge pour trouver... C'était ça l'histoire. D'accord. C'est ce que je me rappelle, mais je sais pas tout, en fait.
Moi,
j'ai quitté le pays.
On est tous africains. On sait comment l'éducation se passait, même si aujourd'hui le monde évolue, comme
évolue.
On le dit, mais il y avait... C'est la valeur africaine,
On n'ose pas le dire pour l'honneur. Moi, c'était le viol, déjà, arrangé, voilà. Et au fur et à mesure, il y a l'école, les filles maintenant étudient, on éduque, on voyage. Ça, tout d'un coup, on dit non. Mais quand tu dis non, c'est la honte du village, de la fille, et voilà. Mais tout petit à petit, moi, c'est qu'on ose parler maintenant. C'est parce qu'il y a des jeunes filles qui disent non. Non, c'est le non qu'on veut qu'ils arrivent à dire. Et toutes ces sociétés civiles qui sont installées, ça commence à évoluer.
D'accord.
Ça commence à parler. Mais... Comme tu disais, il y a des lois chez nous. Ce que je voulais rappeler. Il y a des lois, mais les lois, comme disait Moudjahid, nous a expliqué, c'est des bonnes lois par rapport en France, parce que c'est bien détaillé. Mais seulement, c'est de les appliquer.
Et justement, comme on parle des lois, nous avons un juriste parmi nous, Moudjahid. Vous êtes juriste, vous savez comment le problème est vu par la justice ou par... Oui, par la justice, je vais dire... La recrudescence, j'insiste sur le mot, ils disent quoi, ceux qui font cela, ceux qui commettent ces actes, ces atrocités envers ces femmes? Puisqu'il y a un jugement qui est rendu quelque part.
Oui, avant de revenir, avant de parler de ce que la loi comorienne a dit par rapport à ce fléau, je pense que je voudrais d'abord commencer par répondre sur une question, la question de la recrudescence.
Allez-y.
Les... les ONG qui travaillent actuellement sur le terrain en Moroni sont tous convaincus que aujourd'hui, c'est vrai, on parle de recrudescence, mais en vérité, ce n'est pas une recrudescence. Mmh. En vérité, les cas de viol ont toujours été le viol, c'est quelque chose en tout cas qui est, comment dirais-je, qui fait partie des moyens mis en place, voilà, des moyens mis en place par une société misogyne, une société patriarcale qui n'aime pas les femmes. Parce que le viol aujourd'hui est malheureusement un instrument utilisé pour mieux asservir la femme. Et comme on vit dans une société qui est une société patriarcale, où la femme n'a pas vraiment sa place, le viol ne peut pas échapper. Donc c'est les femmes ne peuvent pas échapper au viol, parce qu'au fait c'est aussi un moyen. On le sait très bien. On connaît, pour ceux qui connaissent un peu les grands problèmes qui se posent au niveau des en Afrique, en RDC par exemple, avec sur les champs de guerre, enfin les pays où sévit la guerre, on sait très bien que le viol est aussi utilisé comme un moyen pour mieux dominer, pour mieux exploiter la femme, la population la plus fragile. Donc c'est la même chose dans la société patriarcale aussi. C'est une manière aussi de dominer la femme. Donc les gens sur place, ils sont convaincus que ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on parle de recrudescence, en vérité, c'est le fruit du travail qui a été battu par les ONG depuis il y a déjà 10 ans de cela.
D'accord.
Avant, le viol était là, mais on le voyait pas.
C'était caché.
Il y a eu un travail qui a été fait, des sensibilisations. On a poussé les gens à venir dénoncer. Aujourd'hui, il y a des numéros verts. Aujourd'hui, il y a Facebook. Aujourd'hui, il y a tout. Maintenant, c'est le travail de sensibilisation qui est en train de payer aujourd'hui. Et là, on est en train de voir, on a l'impression que c'est quelque chose qui augmente, mais en vérité, c'est quelque chose qui était caché et qui est en train aujourd'hui de sortir. Voilà, en gros.
D'accord.
Donc, et pour répondre à la question posée, au fait, on n'a pas la particularité de Comores par rapport à ce combat. C'est que je pense que les Comores a un très bon arsenal répressif contre les viols et les agressions sexuelles. Et je pense qu'on a une des législations les plus modernes au monde. Si vous regardez un peu, pour ceux qui connaissent un peu la législation comorienne, vous verrez très bien qu'on a des choses qui n'existent même pas en Europe.
D'accord.
Pour protéger la femme. Chez nous, nous avons une législation, par exemple, et qui dispose clairement que la parole de la victime doit suffire pour faire asseoir la conviction du juge. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Nous avons un texte qui est clair, qui dit clairement que une femme, une fille, si elle n'a pas encore 18 ans, elle ne peut pas consentir à un rapport sexuel. Et ça n'existe même pas en France. En France, aujourd'hui, on a encore un débat autour de la majorité sexuelle. Et nous, au Comores, ce débat est clos, c'est clair. On a une loi qui est claire, qui est catégorique. Si vous touchez à une fille qui n'a pas 18 ans, c'est que vous l'avez violé, de ne pas consentir. Donc, c'est comme si vous l'avez forcé à coucher avec vous.
Alors,
c'est un viol.
Allez-y.
On a une législation qui est très moderne et qui est très adaptée. Mm. Vous savez, la loi comorienne, elle va plus loin. Elle va clairement jusqu'à dire clairement que même un mari peut violer sa femme. Mm. Il ne suffit pas qu'il soit votre femme pour que vous puissiez vous permettre de faire n'importe quoi. Donc la loi, elle est très claire, elle a détaillé, elle a même la définition retenue du viol. C'est une des définitions les plus modernes de faire.
Alors
que nous avons au Comores aujourd'hui,
oui.
c'est l'application de cette loi.
Et justement,
on a une très bonne législation
Moujahid,
qui n'est pas appliquée.
Voilà, la question que j'allais vous poser, vous avez des beaux textes de loi, je suis d'accord, mais il y a une inquiétude aujourd'hui au niveau des citoyens, c'est l'application exacte de ces textes de loi, puisqu'aujourd'hui, on peut arrêter ou des familles peuvent arrêter quelqu'un qui a commis ces actes. On l'envoie au commissariat. Le lendemain, on le voit encore se promener dans la ville. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est pas une absence de l'État ou la fuite de l'État dans ses responsabilités? Surtout la justice.
Bon, c'est là justement où on fait appel à l'État pour nous aider. Parce que je pense que la situation a évolué, mais les mentalités n'ont pas accompagné cette évolution. En fait, il va falloir aussi travailler, sensibiliser et surtout mettre un peu de volonté dans l'application de ces textes. Aujourd'hui, on a des magistrats qui sont un peu frileux, qui n'osent pas appliquer la loi telle qu'elle a été adoptée par le législateur, mais surtout on a aussi un exécutif qui met pas les moyens pour que cette loi soit appliquée. Donc c'est pour cela que nous, au niveau des ONG, on met l'accent sur la sensibilisation, on met l'accent sur des plaidoyers également, parce qu'on met des plaidoyers, on met en place des plaidoyers pour pousser l'exécutif à le gouvernement, à l'État comorien, à mettre les moyens, à aider les ONG, mais également à sortir les décrets d'application nécessaires pour que ces lois-là puissent être appliquées. Par exemple, à titre d'exemple, là récemment, il y a des ONG qui ont adressé un courrier au chef de l'État lui demandant clairement de faire appliquer la loi FATA, qui est une loi, la loi la plus récente prise sur cette question, et qui au fait oblige l'État comorien, par exemple, à désigner au niveau de chaque tribunal de l'instance, à désigner un procureur chargé uniquement de ces problèmes. Et d'accord, ça, on l'a pas encore. D'accord. Et il y a aussi la même loi qui oblige l'État comorien à désigner également un juge d'instruction qui sera spécialisé sur les questions de viol et de violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, et ça ce n'est pas encore mis en place, faute de moyens. D'accord. Donc la question aujourd'hui aux Comores, ce n'est pas la législation qu'il faudrait revoir, mais c'est plutôt les hommes et la volonté de mettre en application les textes. Et pour finir, permettez-moi, parce que justement, Zanama veut...
Alors, en quelques secondes, puisque il y a voilà, beaucoup de...
là, on n'est pas dans un combat, dans une lutte entre les hommes, les hommes et les femmes. Ça veut dire que c'est pas un combat des femmes contre les hommes.
D'accord.
Je pense que c'est un combat des hommes et des femmes contre un système.
D'accord.
Parce que vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, que les hommes, nous, départ, la société dont nous sommes issus, nous sommes potentiellement des violeurs. Nous sommes des violeurs potentiels, de par la matière qui nous a formés, de par notre éducation, de par la société dans laquelle nous avons baigné. Nous avons baigné dans la culture du viol pendant tous ces années. Donc, chacun de nous a un effort à faire, ne serait-ce qu'un effort, un travail personnel, pour se sortir de là, pour s'améliorer chaque jour.
D'accord.
Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas que la question soit un problème des hommes, enfin des femmes contre les hommes. Il faut que ce soit un problème des hommes et des femmes contre un système.
D'accord, c'est noté. Alors, je sais que vous voulez réagir sur ce qui sur les arguments de. Je pense que le message là, il est clair. Hein. Il a tout dit juridiquement. Il a expliqué quel rôle les hommes doivent jouer aujourd'hui dans ce combat, mais aussi l'État. Vous avez des beaux textes de loi aux Comores, mais si
c'est la mise en application.
Mais la mise en application fait défaut. Qu'est-ce qui explique cela?
Moi, pour ma part, ce qui explique, c'est que l'État, le gouverneur, le président, en fait, il faut qu'il fasse cette cause
une priorité.
Une de ses priorités.
Priorité, voilà, nationale. Il faut que ça soit une cause vraiment qui tape, qu'il écrit, qu'il instruit en disant voilà. Et que ce soit l'éducation, comme on voit en France, on dit priorité. Comme on dit, c'est le Covid, priorité, le viol aussi. Voilà, que ça soit une priorité nationale.
D'accord. Alors, avant de donner la parole à Nadine, Marie, même si elle ne fait signe que je suis là, on ne vous a pas oublié, Marie. Mais voilà. Alors, Marie, penses-tu vraiment que ce combat doit être aussi une des priorités de l'État comorien?
Oui, justement, c'est une priorité. Donc, notamment, comme je vous ai dit, le samedi 24 octobre, on a mis en place ce qu'on appelle la caravane, donc la caravane sur la protection de l'enfant par l'association Toi Maya. Donc le but de la caravane, justement, c'est mettre en exergue entre 2020 et 2021 sur se donner une mission de prévention des violences et participer aux recherches sur un mécanisme et savoir quelles sont les conséquences de ces violences, notamment sur les enfants, sur les femmes. Et justement, suite à cette conférence, on a su militer, on a su justement rassembler 13 associations de la société comorienne civile, de Marseille à Paris, en passant par plusieurs villes, jusqu'à aux Comores, pour justement sensibiliser ce fléau fait aux enfants et fait aux femmes, parce que malheureusement, certes, il y a le gouvernement, mais ce n'est pas leur priorité, mais nous, en tant que société civile, si on met en exergue nos combats, nos démarches, par des conférences, par des moyens, parce qu'il faut aussi donner les moyens, ceux qui sont sur place, des moyens financiers. Et cette caravane, à l'heure d'aujourd'hui, 13 associations sont montées dans cette caravane, parce qu'on dit caravane. C'est-à-dire que c'est un train qui a commencé à rouler. Donc, on a eu récemment l'événement du 21 novembre avec l'association Vokishoa Massiwa, et bientôt le 28 par une autre association, justement pour aller jusqu'au bout et arriver jusqu'aux morts, aller jusqu'aux Comores, voir le président, parce qu'on lui a envoyé une lettre ouverte récemment, signée par ces 13 associations, et justement rentrer les former, c'est-à-dire que dans le cadre d'une formation, rentrer dans les villages, alerter les enfants, aller alerter les écoles coraniques, parce que souvent la violence elle commence par là.
D'accord, on reviendra un peu sur ça. Comment vous allez procéder à cette sensibilisation et puis tout. On va s'intéresser à notre amie Nadine Nguesson, qui est la présidente du mouvement citoyen Côte d'Ivoire Debout. J'aimerais savoir, Nadine, vous, quel est l'apport de votre mouvement aux femmes victimes de ces violences, que ce soit des violences conjugales, que ce soit dans le milieu politique.
D'accord. Nous, avant d'être parti politique, on était initialement déjà un mouvement citoyen. Donc, on avait vraiment feuille de route de sensibiliser vraiment les populations les plus retranchées.
D'accord.
Et donc, on avait vraiment comme projet, qu'on poursuit toujours, l'éducation des jeunes filles. Les scolariser, puisque aussi en Côte d'Ivoire, la jeune fille n'a pas droit, n'a pas accès à l'école. Comme disait la consoeur, elle doit rester au foyer dans le but d'être une bonne ménagère. Donc, on a favorisé et financé donc, des formations et pour les jeunes filles. On les a vraiment aussi sensibilisées vraiment à tout ce qui est citoyen, c'est-à-dire l'action de citoyenneté. Du civisme, donc le droit de vote, les droits qu'elles ont pour exister, il faut avoir une identité, une identification, avoir tes papiers, de ces papiers pouvoir accéder à l'école, etc. Vraiment beaucoup de sensibilisation. Et quand ce genre de cas arrive, quand il y a ce genre de violence, vraiment souvent au niveau familial, on les accueille dans un foyer qu'on a mis en place au niveau d'Abidjan, où ces filles se rencontrent, se réunissent, et donc on essaye vraiment de les aider, de les soutenir, de soutenir leurs projets, souvent des projets scolaires, parce qu'on se dit que si elles sont détruites intérieurement, elles doivent au moins se reconstruire au niveau vraiment sociétal. Donc s'instruire, parce que le savoir est une âme. Quand on sait nos droits, on connaît nos droits, je pense que la femme, la jeune fille peut mieux se défendre, et ça donne une femme mature dans la vie civile.
Alors, chers invités, je pense qu'on va observer notre première pause musicale, mais avant, on reviendra encore sur vous, Nadine, comment votre parti politique, le combat des femmes aussi est une de ses préoccupations, ou la cause féminine de ses préoccupations, mais la situation en Côte d'Ivoire aussi vous préoccupe, et vous avez jugé nécessaire de faire, de passer un petit message dans cette émission, et on reviendra un peu, en quelques mots, on va parler, planter raconter un peu la situation, le décor. Ben voilà. Alors, avant de faire la première pause musicale, puisqu'on va écouter ensemble hein, une chanson qui est chantée par Maudoc. Maudoc, c'est une artiste en herbe. Ça va, Maudoc?
Oui, ça va très bien, Monsieur Majesté.
Vous? Ah, arrête ça. Alors, vous? Alors, vous étiez récemment aux Comores?
Oui.
Vous étiez sur le terrain.
J'étais sur le terrain.
Vous avez vu les réalités pendant trois mois. On était en contact permanentement. Oui, oui. On s'appelait, on s'informait. Oui. Bah après, parce que ça fait longtemps, j'avais décidé, docteur et témoin, que je voulais animer vraiment une émission sur les Comores, bien sûr. Donc, exceptionnellement, ça tombe sur cette date aujourd'hui, mais je pense que j'aurai l'occasion de venir parler politiquement la situation comorienne. Ça, c'est promis. En tout cas, ça se prépare. Hein, ça se prépare. Alors, Maudoc, vous étiez là-bas, vous avez tout vu, vous avez ces cas de viol, vous l'avez entendu, mais vous l'avez vu, aussi. Et c'est ce qui vous a interpellé à écrire une chanson pour dénoncer?
Oui.
Et en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut savoir? Quel est le message véhiculé dans cette chanson?
Le message véhiculé dans cette chanson, avant tout, tant que maman, que je donne vie, parce que je suis maman.
Vous êtes maman, vous avez des adorables filles. Voilà. Et vous dites que...
Tant que maman, que je donne l'éducation.
Oui.
Et ça fait vraiment mal, ça fait chaud au cœur. Mm. Ça fait chaud au cœur de voir un enfant de 6 ans, 5 ans, se faire violer comme ça par un vieux de 40
ans. En fait, plus âgé.
Voilà, plus âgé quoi.
Parce que moi, j'ai vu la vidéo, des dernières vidéos en date. Parce que tout était filmé, hein. Était filmé. Le monsieur, il s'introduit dans une famille, une fille de 6 ans, je pense 6 ans, est couchée et il tente de violer la fille.
Voilà.
Et bizarrement, Dieu ne sait faire, ne dort pas. Le papa était au salon, en plein. Alors, le monsieur, on surprend le monsieur. Il se bat même avec le papa de la fille pour qu'il puisse s'échapper. Mais grâce à la ténacité du papa, ils ont pu mettre la main.
Excusez-moi, moi j'ai dit ce violeur-là, il a eu la chance parce que moi je dis personnellement, si c'était moi, peut-être je prends un couteau pour le...
Alors, dis pas ça. ça c'est la colère d'une maman.
Non, mais bon, je dis ça, c'est une colère des mamans et voilà. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur.
Ça fait mal.
J'ai dormi pas pendant cette période-là parce que ça me travaille la tête. Et du coup, ça me donne vraiment des idées à écrire. C'était pas vraiment une chance, c'est un message. Pour moi, c'est un message qu'il faut que ça s'arrête.
Alors, j'ai assisté à l'enregistrement de cette chanson dans le studio de notre réalisateur Israël. Il est ingénieur de son. Israël. Tout ça s'est passé devant moi. Et on va écouter cette chanson et puis on se retrouve juste après. Mes chers amis Moujahidi et Marie, vous gardez la ligne et puis on se retrouve juste après.
Avec Israël. Plaisir.
Ok.
Pas de problème.
Sualanga muziso na njibu lwa tengweni zifungwa bahanu bazeneyo masiwani nazikaze kifubari hondo hauzuni yeza hema jamu wawanja ho malaoni wawani donta o waranti kole waranti nkambamba za jamichele sabu zeto na yare marilele runde na mavuna maudurile kamhozwani sisi walezi mahozwane ntino ufujari ntiwani diwo watiti etoma ya hatundao Mzee wa mahami yengo hujuhamu yo bo watu hengu obo mda upura muyo Sila haya hahe haringu mniko bombo No mamsazi wala godo la virashingo Shanga weti mkujo huelewa Yentu ya suala hizo wajua Shambe seba nunyi mre madua Womfanya woyezi tohaniwa Ye mrenge hindi mjiviwa Wanu wanatiti wato ujua Nitiki ya sionesiwa izo wajoka hundiwa Fangia hatu mdangali zizo wana Kumana zime watizi rejeze tena Ye ujo tadia na pulwa lezi tozima Iyo ndoana nirijo uona Sima vama narilela owana Ema zamba ya hatu yende
Ben voilà, 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 c'était de, c'était une exclusivité, c'est une chanson qui, voilà, qui vient d'être enregistrée, qui est fait, arrangée par notre ami Israël, et puis voilà. Alors, il y a plein de messages, je sais pas, on va pas pouvoir lire tous ces messages, franchement, il y en a plein. On est bien suivi aujourd'hui aux Comores et par les Comoriens, ça fait plaisir merci. Que vous soyez à l'écoute de la Radio Armada, depuis dans vos pays respectifs. Et en Côte d'Ivoire aussi, nous sommes suivis. Nous avons notre ami Trésor Ken Mouni premier qui nous suit toutes les émissions d'ailleurs, qui est l'ami de Radio Armada. Zachary Assouma qui nous suit. Et voilà, Baldé Fogo, François Hernandez. Bravo, mesdames. Merci, Radio Armada. Merci à vous. Et nous avons Koulou Haïdar. Force et courage, mesdames Zainab et Adjira. Voilà, merci beaucoup de porter. La voix de notre collectif, ça fait plaisir, mesdames. Restez toujours scotchés sur la Radio Armada. Frédéric, Julien, connecté. Tout, il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de messages. Désolé merci. Que je ne peux lire merci. Tous ces messages, mais nous sommes de cœur avec vous. Maoulida, on vient d'écouter cette chanson oui. que vous avez enregistrée. Ça fait même pas une semaine.
Ça fait même pas une semaine.
Voilà, que c'est. On a compris le message. Vous êtes comorienne. Nous, on n'a pas vraiment. On comprend. Ne serait, comme Maoulida me l'a traduit, je connais oui. un peu, mais pour ceux qui ne comprennent pas la langue comorienne, voilà, est-ce que, qu'est-ce que vous avez compris? Quel est le message? Qu'est-ce qui était dit dedans?
Bah, c'est parce que quand je dis la langue comorienne, parce qu'il y a, il y a le Singajidja et moi c'est le Comor, voilà, il y a le Singajidja, c'est différent. D'accord. Mais je suis fière qu'une femme, parce que c'est ça en fait, de parler le mot. Au viol, parce que ça c'est tabou, c'est vraiment tabou. Et ça de voir Maou, voilà, de chanter cette chanson. Il y a d'autres artistes maintenant qui en parlent et c'est et il y a des hommes aussi qui en parlent des chansons. Mais là, de voir Maou que je connais depuis des années, voilà, de voir son caractère, j'ai l'impression il a évolué tellement. De dire voilà, stop, voilà, de dire, il y a un homme de 40 ans, de.
Avec une fille de 5 ans ou 6 ans.
Voilà, ça lui a choqué déjà, mais ça oui. l'a traumatisé d'avoir assisté à ça et de voir ça. Et en même temps, ça fait partie de la sensibilisation. Ça fait partie d'informer les gens. La musique, la peinture, il y a tous les moyens, comment informer. Et les enfants et les jeunes. Et ça, c'est ça qu'on va essayer de trouver les outils, comment communiquer. D'accord. Ceux qui parlent pas le comorien. Mais Adjira pourra traduire vraiment la chanson comorien, voilà.
Alors ça c'est les mots, ça c'est les, ça c'est les mots de Zaza. Je signale que Zaza c'est une grande dame qui est bien connue ici à Villejuif. C'est une française qui est bien connue ici à Villejuif, qui a fait beaucoup de choses ici à Villejuif.
C'est pourquoi je suis allée la chercher.
Les Villejuifois, tous les Villejuifois qui sont connectés aujourd'hui savent vraiment qui est cette dame. Voilà, c'est une des fiertés.
C'est pourquoi je suis allée jusqu'à chez elle, la faire sortir pour venir nous rejoindre. Voilà. Dans le mouvement.
Alors, ouais. Pour ce qui est de la composition de cette chanson, il y a quelqu'un vraiment qui a tout. En fait, il est au centre de ça, et c'est Docteur. Ah, Docteur, vous êtes mieux placé à nous traduire, à nous parler des messages véhiculés. Après, on va retrouver Nadine.
Oui. Ah. Oui, la chanson, c'est vrai, il est bien. Bon. Tout est bien, parce que quand on pense toutes les idées qu'on a dans la tête, c'est toujours bien.
D'accord.
Le moment que vous pensez à changer quelque chose, on dit toujours que c'est positif. Donc, la chanson, elle a parlé beaucoup de choses, parce que elle a touché la population africaine, la population de tout le monde entier, justement, surtout la justice. En disant que, quelles que soient les conséquences de tout ce qui se passe, il fallait que la justice réagisse. C'était la première fondation de cette chanson, en disant, aujourd'hui c'est malheureux. En attrapant une personne comme celui qui a introduit dans la maison et le ramener devant la justice, au bout de 3 jours, on le voit à la place publique avec tout le monde, ils sont en train de jouer aux cartes.
D'accord.
Alors, ce sont des choses que cette chanson, il condamne beaucoup.
D'accord.
C'est ça l'argument de cette chanson.
Voilà. Qui frappe. Allez, force à toi, Maoulida. Maoudoc, voilà, ne m'en fais pas. Hein? Tu connais bien l'histoire.
Tu vas voir Majesté.
Voilà. Hey, toi, je vais carton jaune. Hein, voilà. Oui. Alors, on va poursuivre le cours normal de cette émission. Nadine, on était avec vous. On parlait de votre parti politique. On parlait de l'action, des actions que mène votre parti politique. Et bien, comme on parle de la Côte d'Ivoire, qu'en est-il de la situation aujourd'hui dans ce pays après l'élection du 31 octobre. Voilà.
D'accord. Mais, au soir du 31 octobre, hélas, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, malgré qu'on a vraiment combattu et battu le pavé depuis le mois de juillet, vraiment sur le terrain au niveau de l'opposition ivoirienne. Mais l'ex-président Alassane Dramane Ouattara a quand même, de manière très calamiteuse, quand même, voilà, il a fait ses élections que je qualifie de coup d'État électoral. Parce que au niveau de la Constitution, comme je vous avais déjà dit, en l'article 183 et l'article 55, il ne pouvait se représenter parce que dans notre Constitution, on n'a que 2 mandats. Donc, il a tout de même forcé. Et il s'est maintenu donc pour pouvoir être président candidat, puisqu'il est quand même le candidat et le président de leur parti, le RHDP. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêts. Mais il a quand même tout de même continué, malgré toutes les alertes qu'on a pu faire. Et donc, actuellement, au niveau de l'opposition, a été mis en place le CNT, c'est-à-dire le Conseil National de Transition, que le président Bédié préside.
D'accord. Alors, avant de parler de la CNT, il y a une autre situation, ou une situation qui vraiment préoccupe aujourd'hui la population ivoirienne, on le sait, l'insécurité. Bat son plein dans le pays. On voit les vidéos horribles circuler sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas. C'est tellement horrible que je ne veux pas. Cette vidéo, c'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. Et les citoyens de certaines localités sont tirés sur eux. Qu'est-ce qui explique tout cela? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on le sait, la majorité des Ivoiriens ne veulent plus Alassane? Est-ce que cela explique l'absence totale ou le rejet total de Alassane et son gouvernement?
Pas plus tard que jeudi dernier, nous avons fait un sitting devant le Quai d'Orsay parce que nous sentons vraiment une collaboration de l'État français avec l'ex-président Alassane Dramane Ouattara. On sent qu'il est soutenu parce que le ministre Le Drian, chargé des affaires étrangères, a publiquement su BFM justifié ce coup d'État électoral. Et donc, je pense que c'est un ministre français, ce n'est pas un ministre ivoirien. Donc, il n'a pas à justifier ce genre d'action. Et donc, pour ce fait, nous nous sommes rassemblés jeudi dernier pour dénoncer justement ces multiplications de violences vraiment extrêmes, parce qu'il y a même eu à Daoukro, il y a eu une décapitation d'un jeune homme qui s'appelle Nguessan Kofi, qui a été décapité, et il y a des vidéos qui circulent, et ceux qui l'ont tué jouaient au football avec sa tête.
Sa tête, il a été carrément le fait.
Décapité. Ouais, et donc les images sont là, les corps sont calcinés, et tout ça pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes, c'est la population majoritaires qui sont contre le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, comment les faire taire? Je pense que...
Et aujourd'hui, c'est fait par des enfants de 10-15 ans qui envahissent les villes avec des machettes, qui commettent des crimes sans être poursuivis.
Non, voilà.
Pas d'arrestation, puisque des fois... Bon, après, les vidéos expliquent tout. On voit ces jeunes en connivence avec les forces de sécurité sur le terrain qui marchent ensemble.
Effectivement, là, nous sommes à plus de 100 morts et les blessés, il y en a des milliers, puisque pendant le jour même des élections, il y a eu beaucoup de boycotts. Il n'y a que 10% de la population ivoirienne qui a voté. Donc, si aujourd'hui le président, l'ex-président se dit président, c'est parce que 10% des Ivoiriens l'ont choisi, et je pense que ce n'est pas la majorité. Et donc, nous vivons actuellement un état d'urgence parce que il y a beaucoup de violences qui sont donc faites à toutes les populations qui sont contre le mandat, la présidence du président Ouattara. Donc, l'heure est très grave, grave.
Alors, l'heure est grave. Nadine Nguessan, présidente du mouvement citoyen Côte d'Ivoire Debout, il y a eu dernièrement une rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et Harry Conan Bédié. Mais après cette rencontre, le dialogue est suspendu ou a été suspendu par certains préalables. Qu'est-ce qu'on peut savoir davantage?
Effectivement, c'est-à-dire suite donc aux élections calamiteuses du 31 octobre, l'opposition s'est encore plus fédéré et le président Bédié, l'ex-président Bédié, a mis en place le CNT, Conseil National de Transition, qui ne reconnaît plus le pouvoir en place. Donc, le président Guillaume Soro est aussi membre fondateur du CNT. Et donc, suite à ce nouveau gouvernement qu'on estime être le gouvernement légitime qui devrait préparer les futures élections, le président Bédié était chez lui et il était vraiment en famille. Et donc, les milices ouattariennes ont débarqué chez lui et ont arrêté toutes les personnes qui étaient dans la maison. Des gens même qui n'étaient pas, qui n'ont rien à voir avec la politique. Et donc, de cela, le secrétaire général Maurice Guigaoué du PDCI a été mis en prison actuellement. Au niveau du FPI de Gbagbo, Afiné Nguessan est en prison. Actuellement, l'opposition ivoirienne est vraiment menacée. Quand on est dans l'opposition, soit on est en prison, soit on est tué, soit on est brimé. Et le président Bédié lui-même, actuellement, c'est vrai, il n'est pas en prison, mais il est en résidence surveillée. Et donc, suite à cela, il y a eu des pourparlers le 11 novembre entre Ouattara et Bédié, mais qui ont accouché d'une souris parce que... par la suite, le président Bédié a décidé qu'on ne peut pas faire des avancées, on ne peut pas parler avec quelqu'un qui emprisonne ses opposants. Et donc, il réclame la libération des opposants et le retour de tous les exilés. Parce qu'ici en France, il y a une bonne partie, il y a le président Gbagbo, il y a Blé Goudé, le président Guillaume Soro, beaucoup de gens. Sans compter ceux aussi qui ne sont pas dans la politique, qui sont aussi des artistes aussi, mais de l'opposition, sont en exil. D'accord. Donc le président Bédié réclame déjà le retour de ses enfants,
de ceux qui sont en exil,
en exil,
et la libération de ceux qui sont emprisonnés.
Voilà les nouveaux prisonniers pour pouvoir commencer déjà à entamer des pourparlers.
D'accord. Alors, j'espère que c'est un sujet très important. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. On va revenir avec le collectif des femmes engagées comoriennes de France. On a abordé la question de viol aux Comores aujourd'hui avec l'inaction, si je peux le dire comme ça, malgré la présence des textes de loi qui répriment ces pratiques, l'inaction du gouvernement et de la justice comorienne. Quelle va être, on va essayer d'aller un peu plus vite puisque la radio c'est l'heure, il y a une émission qui va commencer tout à l'heure. Quelle va être la suite de vos combats? Je sais que vous avez plein de projets, Agira, également Zaza, Marie qui nous suit avec le juriste Mojahidi. Quelle va être de façon générale la suite de vos combats et des projets à venir?
Je peux me permettre?
Allez-y, allez-y, en quelques mois, et voilà, chacun a une minute.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la suite, c'est-à-dire qu'elle a déjà commencé, je vous ai dit, depuis le 24 octobre. Donc justement, pour faire comprendre à la communauté comorienne qu'on a vraiment un gros fléau, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser les mamans, les papas, notamment en intervenant auprès des institutions, des écoles coraniques, dans les écoles, bien sûr, publiques et privées qui existent. Et aussi, on va essayer de les former sur l'éducation sexuelle, parce que n'oublions pas que nous, la sexualité, c'est tabou. Nous, on a cette chance-là, nous, le fait qu'on est né en France, donc on voit les choses et on apprend par nous-mêmes, mais n'oublions pas que les Comores, c'est une république islamique. D'accord. Et pourtant, l'islam, justement, met en exergue la sexualité. Mais eux, il y a une forme d'amnésie qui fait en sorte que l'enfant ou la femme n'a pas l'arme pour dire que non, je ne veux pas de cet acte-là, que ce soit la fille qui est face à un adulte, que ce soit l'enfant en tant qu'adolescente face à son ami, à son copain, et la femme face à son mari ou à son ex-conjoint. Donc, on va faire en sorte que cette caravane puisse mettre en place cette sensibilisation, les former et donner des moyens socioculturels par des BD, par du théâtre, par des textes, par des chants, et mettre aussi, parce qu'on a aussi demandé aux différents artistes comoriens de venir nous aider par leurs moyens vocaux, par les chants, justement pour militer et mettre en nos compétences, nos actions ensemble, justement, pour aller de l'avant et trouver un moyen pour faire disparaître plus ou moins ce fléau. Alors, la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes. Et n'oublions pas aussi la violence, parce que moi, je n'oublie pas. Il y a aussi, n'oublions pas qu'il y a des hommes aussi qui sont violentés. Mais on ne le dit pas. C'était juste ma conclusion.
Voilà. Alors, chacun, on n'a que 5 minutes. 5 minutes pour résumer un tout petit peu, faire sa conclusion. Agira, je commence par vous.
Je l'ai dit déjà au départ.
D'accord.
Et nous, notre objectif, c'est d'en parler au sein de la famille. Après qu'on nomme un médiateur qui rentrera dans les chionis pour apprendre aux enfants l'éducation sexuelle et autres, pour que aussi la peur change de camp. Parce qu'aujourd'hui, c'est les victimes qui sont coupables, mais pas les coupables qui sont... Donc, c'est pour que la peur change de camp, pour que les victimes se sentent protégées et défendues. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Donc, on a deux lois. Il y a une qui englobe toutes les rubriques.
D'accord.
Il y en a un qui défend uniquement le viol. C'est la loi Fatah. Donc, nous, ce qu'on aimerait bien, nous, le collectif, c'est qu'il y a une troisième loi qui crée un fichier qui va répertorier tous ces coupables, tous les violeurs, pour que demain, quand ils sortent de prison, on doit le rattraper. Donc si ce fichier, cette loi peut être créée au niveau du gouvernement, ça serait pas mal.
D'accord. Zaza, je vais donner la parole à Moujahidi. Voilà. Moujahidi, vous êtes juriste. Vous avez écouté tout à l'heure Adjira avec cette proposition qu'elle vient de faire en 50 secondes. Voilà, pour être dans le temps.
Oui, je pense que c'est une très bonne. C'est une proposition que moi, personnellement, j'appuierai parce que. Ça nous permettrait effectivement d'avoir un fichier et de pouvoir suivre ces prédateurs parce que il faut aussi on ne doit pas oublier une chose, on doit oublier le fait que la plupart de ces gens-là, la plupart de ces prédateurs en général, ce sont ils récidivent tôt ou tard, ils finissent par récidiver. Mmh. Je pense pour protéger nos enfants, mais également nous protéger nous tous. Il est de notre intérêt à ce que une proposition pareille soit appuyée, en tout cas soit soumise à notre Parlement pour examiner. Mais pour finir, je voudrais surtout insister sur une chose, sur le fait que la plupart des efforts déployés par les ONG, c'était surtout pour sensibiliser les parents des victimes, sensibiliser la population sur comment protéger nos enfants. Mmh. Et je pense qu'il faudrait qu'à un moment, on jette un petit coup d'œil sur le profil de ces violeurs, parce qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus.
D'accord.
Il faudrait qu'on comprenne un peu le parcours de ce qu'est-ce qui fait de ce top, parce qu'en général, c'est un homme, en général. Qu'est-ce qui fait de cet homme un violeur? Et pourtant, il a un enfant, il a des enfants, il a une femme, il a une sœur, Donc, il va falloir aussi longtemps qu'on n'aura pas fait cette étude, je pense qu'on ne pourra pas juguler ce fléau qui nous concerne tous.
D'accord. Zaza, pour conclure tout ce que vient d'être énuméré par
ce monde,
par le collectif.
Parce que c'est qu'on ne va pas s'arrêter, le collectif continuerait dans tous les objectifs qu'il y a, c'est que plus personne ne doit se taire. C'est ça, c'est écoute-père. Plus personne ne doit se taire. Chacun de nous a sa part de responsabilité de ce qui se passe dans notre communauté ou partout. C'est fini. Il faut plus fermer les yeux. Et n'oublie pas que ce fléau sévit dans notre communauté. Et aussi bien aux Comores et en France. Je regarde bien, docteur. Parce que et contrairement à ce que certains pensent, les violences sexuelles perpétuées en France, dans notre communauté comorienne, ne sont pas beaucoup plus dénoncées. Ouais. Et j'espère compter sur vous de passer le message que les Netop doit se réveiller, doit parler. Il doit parler. Parce que. Et tout ça à cause le poids de la culture. La culture qu'on a. Il peut se lier, mais il faut vraiment qu'on le pose entre la charia, entre les notables, entre la loi pénale. On doit, mais il faut qu'on en parle.
D'accord.
Il faut s'opposer. Et c'est pour ça qu'il est important de témoigner, de continuer qu'on dénonce. Voilà, soutenir notre mouvement de lutte contre ces violences.
Donner la voix ou sans voix.
Et nous, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est Armada.
Ouais,
ça.
C'est Armada.
Alors, Maoudoc, vous continuez à passer le message à votre manière, à vous servir de vos plumes, c'est ça? Ça continue pour vous aussi?
Oui, ça continue pour moi, parce que voilà, pour moi, c'est important. Et aussi, j'espère bien, comme elle avait dit notre jury,
juriste.
Et en disant qu'il y a une loi qui est votée, j'espère qu'on va l'appliquer cette loi parce que voilà, il y en a marre.
Ça sera appliqué. Docteur, vous faites partie de ces notables. Vous faites partie de ces personnes aujourd'hui à qui on peut se référer dans la communauté comorienne ici, à Paris, en France, en gros. Votre dernier mot en 30 secondes.
Oui, mon dernier mot.
Mot de la fin, hein? C'est pas votre dernier mot quand même, mot de la fin.
Ça a été dit parce que, bon, la notabilité, que ce soit en France ou aux Comores, je sais que on a beaucoup à faire dans toutes nos cultures, quand on se rassemble, le problème qui s'impose dans nos foyers ici en France, des tontons qu'on vit avec eux dans nos rassemblements, qu'on doit les dénoncer, qu'on doit se regrouper et dire non à la violence. Et je pense que quand je suis venu là, c'est parce que la notabilité, ils m'ont choisi que je sois là pour parler haut et fort, qu'à partir d'aujourd'hui, à toute manifestation qui va être lieu en France comme aux Comores, que ce soit mariage, majlis et toutes sortes des rassemblements de la communauté comorienne, il fallait que cette question soit toujours mise en avant, que les mouftis, les gens qui savent à quoi, qu'ils ont des mots à dire, qu'ils les disent haut et fort, que la violence doit être cessée au niveau des enfants et des femmes.
D'accord.
Ainsi, malgré tout, je vais rajouter ces mots. Parce que quand la violence, ça commence à faire, et celui qui le fait, quand il est puni, il doit être savoir sa punition.
Il doit savoir sa punition.
Il doit pas le recommencer.
D'accord.
Malgré tout, c'est toujours la même personne qui le fait et qui sort et qui l'aurait fait parce qu'il le sait très bien qu'une fois, il va être jugé à la même manière.
D'accord.
C'est tout ce que je voulais dire et je m'excuse.
Merci à vous, docteur. Alors, on ferme porte et fenêtre de cette émission avec la présidente du mouvement citoyen Côte d'Ivoire Debout. D'accord. Votre dernier mot.
Alors,
qu'on n'a pas pu épuiser tous ces questionnaires. On aura l'occasion de revenir sur tout
Alors,
ça.
Alors, moi, je voulais vraiment encourager mes sœurs comoriennes, vraiment leur dire un grand bravo pour l'initiative. C'est vraiment merveilleux.
Merci.
On dit toujours ce que femme veut, Dieu veut. Donc je vous encourage, continuez.
Merci.
Nous sommes des femmes et les femmes, nous sommes toujours au cœur de tout ce qui doit changer. Donc je vous encourage. Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est quand même c'est des choses culturelles. Oui. J'encourage aussi le Comore et les Comoriens.
Merci.
Hein, voilà. Et j'invite aussi tous les Africains, tous les Comoriens à nous rejoindre aussi dans la mobilisation qu'on fait en Côte d'Ivoire parce que c'est pour l'Afrique. Parce que lorsque un président décide de faire un mandat, deux mandats, trois mandats, je peux vous dire que ça contamine les autres pays africains.
La Côte d'Ivoire, elle n'est pas la seule. Hein.
D'accord.
Voilà. Donc, tous ensemble. Et bravo à tous.
Merci.
Alors, on ne saurait terminer cette émission sans dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont envoyé les messages, qui ont partagé cette émission. Merci à notre partenaire de l'émission. C'est avant ça, oui, docteur.
Oui, non. Parce que j'avais attendu une chanson qui est passée tout à l'heure.
Oui.
Je pensais que ça aurait été vraiment terminé de ces messages. Parce que cette message.
Oui, elle va nous faire ça en freestyle un tout petit peu. Oh. Puisque, bah oui, il va nous le passer juste à la fin. Alors, Israël, tu prépares le morceau. Voilà, sur ça, on va se quitter. Merci à notre partenaire Média Citoyen 224 qui partage les émissions, qui partage cette émission sur sa page, le média qui se distingue. Israël, voilà, grand merci à Massouma. Massouma qui a déjà, qui vient de sortir un roman qui s'intitule Sogué. Je pense bien, vous le voyez en image. Le roman est disponible sur Fnac, sur Amazon et sur tous les autres CL, bien sûr. Donc, allez-y vous procurer de ce roman. Ça parle, ça retrace la vie d'une jeune fille qui se bat, qui s'est battue déjà, dont la vie n'a pas été facile, mais elle a un parcours exceptionnel. Merci à tous les auditeurs de Radio Armada. Restez scotchés, restez de notre tout à l'heure à 18h15, vous aurez votre émission Controverse, ce qui sera présenté par Jean-Pascal Bonsignor. Et puis, juste après Jean-Pascal, il y a une autre émission. C'était mieux maintenant. Vous êtes fan vraiment de la vraie musique, de vrai soul, de vrai. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Mais en tout cas, restez scotchés. Il y aura Soulvivor qui sera l'émission qui sera présentée par Soulvivor, Stéphane Filet et ses amis. À Radio Armada, c'est juste du bonheur pour vous servir. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci aux réalisateurs, Israël, Landry. Merci à tous les auditeurs.
Pareil, quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête.
Au revoir.
Voilà.
Au revoir,
allez, vas-y, donne la musique.
Au revoir. De rencontres et de débats sur Radio Armada.
Au revoir, Marie. Thank you.
fungwa bahanu bazeneyo masiwani nazikaze kifubari hondo hauzuni ezahe majamu wo wanjaho malaoni wawani donsa o waranti kole waranti kambamba za jamichele sabuze toma yare marilele runde na mavuna maudurile kamhozwani sisi wa Siwani diwo watiti etoma ya hatundao Shari na huzuni nazi wadunge Ye mapedo fili mungu warenge Sitoma za dahoni wazi chashonge
Au cœur de l'histoire, un rendez-vous d'échange, de rencontres et de débats sur Radio Armada.